With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Un podcast, Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. Le 8 septembre dernier, la justice suisse a rendu une décision très attendue et très décevante. La Cour suprême du pays a en effet décidé de se ranger du côté de la Fédération internationale d'athlétisme, la FIA, dans la bataille qui l'oppose à l'athlète sud-africaine Caster Semenya. Cette dernière, double championne olympique et triple championne du monde du 800 mètres, s'oppose à la FIA qui veut la contraindre, pour qu'elle ait le droit de concourir dans sa discipline, à prendre un traitement visant à faire baisser son taux de testostérone, qui est plus élevé que la moyenne chez les femmes en raison de ce qu'on appelle hyperandrogénie. C'est une mutation génétique dont elle est porteuse, mutation qui donc, selon la FIA, l'avantage et déséquilibre la compétition. Un point de vue qui vient confirmer la tendance très nette qu'ont les fédérations à vouloir contrôler le corps des athlètes femmes, et ce depuis toujours par des examens, des tests toujours plus envahissants, une vraie tradition qui n'est pas totalement déplacée de qualifier de misogyne et à laquelle nous avions consacré un épisode en février 2019, épisode que je vous propose de réécouter. Bienvenue dans Programme B. Et c'est ma camarade Mélanie Wanga qui était aux commandes de cet entretien avec Anaïs Beauhuon. Elle est professeure des universités en sciences et techniques des activités physiques et sportives, on dit aussi les STAPS, à l'université de Paris-Sud. Elle est aussi autrice de « Tests de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X », un livre paru aux éditions 9e en 2012. La discussion avec Mélanie avait commencé très logiquement sur le sens que l'histoire de Caster Semenya a pour les fédérations d'athlètes.
Je crois qu'il faut commencer par dire que c'est un scandale. Et à mon avis, c'est un scandale qui va marquer l'histoire du sport du 21e siècle. Puisque Caster Semenya est accusé de produire plus de testostérone que la moyenne autorisée de manière médicale, mais plus encore arbitraire. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui dans le monde du sport qui produit plus de testostérone qu'une moyenne, on pourra y revenir parce que du coup cette moyenne pose question, est accusée d'avoir ce qu'on appelle dans le milieu du sport un avantage physique. Et donc on demande à Caster Semenya, plus précisément la Fédération internationale d'athlétisme, de réguler ses taux hormonaux en prenant des médicaments pour ne plus dépasser cette moyenne autorisée. Pour la troisième fois dans l'histoire du sport, puisqu'on pourrait y revenir également, il y a eu certaines sportives qui ont refusé ces règlements. Après du Tichand, Caster Semenya porte plainte, enfin saisit le tribunal arbitral du sport pour discrimination avec ses avocats. Elle dit que ce n'est pas juste de lui demander de réguler finalement ses performances sportives. Les arguments de la Fédération internationale de l'athlétisme sont des arguments d'éthique et de respect, si vous voulez. Ils partent du principe que tout le monde est égal dans les starting blocks. Tout le monde concourt à armes égales. Or, moi, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que c'est une utopie, c'est un vœu illusoire. Personne n'est égal dans les starting blocks. Il y a des déterminants sociologiques de la performance, des déterminants sont très très nombreux pour essayer d'expliquer pourquoi certains excellent plus que d'autres. Et la question qui se pose, c'est pourquoi vouloir réguler un avantage naturel, puisque j'ai oublié de le dire et c'est fondamental, les taux hormonaux que produit Caster Semenya sont endogènes. Pourquoi vouloir absolument réguler ses performances alors qu'il n'est pas absolument pas question de dopage?
Et de manière tout à fait arbitraire en plus.
Totalement.
Ils ont fixé une limite et ils ont dit...
Alors, c'est totalement arbitraire parce que justement, on est en présence de moyennes et on sait très bien, enfin moi en tant qu'enseignante, je sais très bien que c'est une moyenne. Donc oui, il va y avoir des étudiants qui vont dépasser la moyenne et d'autres qui vont être en dessous de la moyenne. Et donc, ils ont arrêté en 2011 pour la première fois la Fédération internationale d'athlétisme, la Fédération internationale de foot, puis plus tard, le CIO s'est aligné sur les règlements sur l'hyperandrogénie.
Le CIO, c'est...
Ah pardon, le Comité international olympique.
D'accord.
Donc au début, ça concernait uniquement l'athlétisme, puis le foot. Et après, à partir du moment où c'est le Comité international olympique, toutes les autres disciplines olympiques, ils ont décidé en 2011, ils ont édité un règlement sur l'hyperandrogénisme féminin, ce dont on parle. Et ils ont décidé de demander aux athlètes qui produiraient dynamomol par litre de sang de testostérone de soit
accepter de prendre des médicaments justement pour diminuer leur taux, soit aller concourir chez les hommes. Or, il y a une dimension fondamentale qu'on ne dit pas assez, c'est que ce soit Caster Semenya ou Dutty Chand, on pourra y revenir, Caster Semenya, elle court en 1 minute 55 secondes et 45 centièmes en 2009 quand elle gagne les championnats du monde d'athlétisme de Berlin et quand la polémique naît. Or, cette performance ne lui permettrait même pas d'être qualifiée au championnat de France de 800 mètres masculin.
Oui, donc ouais. Très clairement, pour elle, ça n'aurait aucun intérêt d'aller courir chez les hommes.
Elle aurait qu'une chance, en fait. Donc du coup, ce règlement est inadmissible et complètement discriminant.
Juste une petite question qui est peut-être accessoire, mais est-ce qu'il y a des tests de ce genre chez les hommes pour limiter la testostérone? Si on parle d'égalité dans les starting blocks.
C'est une très bonne question. Il y a ce qu'on appelle les passeports biologiques, mais c'est avant tout pour lutter contre le dopage. Donc les athlètes, que ce soit les femmes et les hommes, sont très suivis avec ce passeport biologique. Mais jamais un homme dans l'histoire du sport ne s'est vu reprocher des taux hormonaux naturels, j'entends, hein, parce qu'on n'est pas dans le cadre du dopage, trop élevé. Donc non, absolument pas. Et ça renvoie au fait que la question qu'il faudrait se poser, est-ce que du coup, la testostérone ne serait pas l'apanage exclusif des hommes, en fait ? Seuls les hommes auraient-ils le droit de produire de la testostérone alors qu'on sait qu'on est en présence de variations quantitatives ? Et si, par exemple, demain, je me mets ou vous vous mettez à faire de la musculation à très haut niveau, 35 heures par semaine, etc., vous allez pouvoir avoir des variations hormonales générées par votre pratique physique. Et donc, c'est vraiment important de noter que ce sont des variations quantitatives. Il y a des hommes qui produisent moins de testostérone que la moyenne des hommes. Et il y a des femmes qui produisent plus de testostérone que cette moyenne arrêtée de manière à nouveau, je le répète, arbitraire.
Alors, quand même, les tests de féminité, ça existe depuis quelque temps dans le sport. J'aimerais bien que vous nous éclairiez un petit peu sur d'où ça vient, à quoi ils sont censés servir, et peut-être nous en expliquer un peu la logique, je mets des guillemets, hein, ou du moins le fonctionnement.
Du coup, moi, je suis socio-historienne et j'ai fait ma thèse, mon doctorat, pas sur les tests de féminité, mais sur les discours médicaux et la difficile accession des femmes aux activités physiques et sportives de 1880 à 1922, au moment où elles mettent leur corps en mouvement. Et j'ai découvert que la réglementation des activités physiques et sportives féminines relevait d'injonctions paradoxales qu'on va retrouver finalement aujourd'hui dès la fin du 19e siècle. On s'est dit, on va mettre en mouvement les corps des femmes pour lutter contre, à l'époque, la tuberculose, la syphilis, la sédentarité, l'obésité, l'alcoolisme, etc. Mais plus encore, alors c'est un peu complexe, mais je vais essayer de le rendre simple, il y avait le courant lamarckien qui consistait à penser que la transmission, si vous voulez, des caractères acquis existait et donc il fallait renforcer physiquement les femmes et ça serait un gain pour les générations futures. Je sais
d'accord,
pas si je suis...
préparer les générations futures en faisant de l'exercice.
C'est ça, en pensant que si on mettait leur corps en mouvement, elles allaient transmettre tout ce qu'elles avaient acquis de par
de
leur
bon gène.
Voilà, ouais, exactement. D'accord. Et donc ça, c'est aussi un courant qui a permis de permettre un petit peu l'accès des femmes à certaines disciplines sportives. Mais le problème, c'est que très vite, les hommes ont eu peur de la différenciation sexuelle, enfin que la différenciation sexuelle
que
soit
les
remise...
femmes deviennent des hommes.
Exactement, voilà. Et donc des choses que j'ai pu lire, des viragos, des lesbiennes, ou alors vraiment la crainte majeure de l'époque, c'est des femmes stériles à force de pratiquer trop de sports, et surtout des sports de tradition masculine très ciblés, des sports qui étaient accusés de pouvoir mettre en danger leurs organes reproducteurs. Il y a tout un débat, fin 19e, qui amuse beaucoup mes étudiants, au sujet des femmes et de leur accès à la bicyclette. Elles étaient par exemple accusées de pouvoir s'adonner à des pratiques masturbatoires avec le frottement des pédales, et donc on avait peur du coup qu'elles se désintéressent que leur désir pour les hommes soit amoindrie, et plus encore qu'elle puisse subvenir
qu'elle n'ait plus besoin des hommes.
Voilà,
c'est scandale.
Ça, exactement, et plus encore que la bicyclette les rende stériles, en fait. Et du coup, ça a été très difficile. Du coup, je perds mon argumentaire.
La, mais l'accès, ouais.
Il y a une vraie injonction paradoxale qui consiste à dire faites du sport, mais ne devenez pas trop masculine, trop virile. Surtout, ne vous désintéressez pas du désir masculin et pensez à vous reproduire. C'est vraiment très clair dans tous les discours médicaux que j'ai pu lire à la fin du 19e siècle.
Et du coup, les tests de féminité sont arrivés à ce moment-là ?
Voilà. Il est important de noter que le sport transforme, bouleverse les morphologies. À nouveau, si vous vous mettez à faire beaucoup de rugby pendant des années, bah, votre corps va changer, va être transformé par la pratique. Et donc, on a vu arriver dans les années 30 des femmes qui sortaient des critères normatifs de la féminité et très vite, on leur a reproché d'être trop puissantes, trop musculeuses, trop poilues. J'ai même trouvé dans des archives en 1948 un dirigeant sportif qui reproche à une femme d'avoir des trop grands pieds. Et donc, il en conclut le fait que ça ne peut pas être, je cite, entre guillemets, une vraie femme. Et le soupçon s'est très vite porté sur ces femmes en pensant au pire que c'était des hommes déguisés qui concouraient chez les femmes, ou au mieux, mais je dis ça très ironiquement, des femmes, et je cite à nouveau, non authentiques. Et donc, dans l'objectif vraiment avoué des fédérations de respecter cette bicatégorisation sexuée et d'empêcher les hommes de concourir chez les femmes, ils ont mis en place, pour la première fois en 1966, au championnat d'Europe de Budapest d'athlétisme, ce qu'on appelle des tests de féminité, mais le vrai terme qui a été utilisé à l'époque, et ça a du sens, des contrôles de sexe.
Le mot contrôle s'applique bien, pour le coup, à ce que c'est, quoi.
La première forme de ces contrôles sont des tests gynécologiques et morphologiques. C'est-à-dire que toutes les athlètes devaient se présenter devant trois médecins et montrer clairement leurs organes génitaux. On leur imposait vraiment des contrôles gynécologiques pour être sûr que leurs organes génitaux sont bien des organes génitaux dits féminins. Et on ne se contentait pas de ça, ils leur faisaient passer des tests de force. Donc elles devaient souffler dans une sorte de spiromètre afin d'évaluer leur capacité respiratoire. Elles devaient presser dans une poire, un dynamomètre, afin d'évaluer leur puissance musculaire, qui devait rester en deçà de celle estimée masculine. Donc c'est vraiment des tests morphologiques et gynécologiques pour définir ce qu'on attend, entre guillemets, d'une vraie femme autorisée à concourir.
Et la définition pure, du coup, c'est d'être en dessous d'un homme en termes de force.
Exactement. Ouais. Inférieur physiologiquement. On partait du principe qu'une femme doit être, ce qui peut expliquer aujourd'hui la situation actuelle. En fait, ça renvoie à mes premières recherches. Très vite, j'ai dû travailler sur quelque chose qui est fascinant, mais en même temps qui est ahurissant. C'est et ça renvoie à votre question, qu'est-ce qu'une, et je mets des guillemets, vraie femme autorisée à concourir? Et en fait, ce dont je m'aperçois, c'est plus les instances dirigeantes sportives, plus les instances dirigeantes sportives médicales cherchent à définir ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir, moins ils trouvent. Parce que au début, donc on vient de le voir, ils ont essayé de prouver qu'une vraie femme était une vraie femme parce qu'elle avait des organes génitaux visuels dits féminins et une force et une puissance musculaire, une capacité respiratoire en deçà de celle estimée masculine. Et du coup, ça me permet de dire que il y a eu beaucoup de plaintes. Les sportives ont trouvé ces tests trop humiliants.
Dégradants.
Dégradants. Et donc, ils se sont posé la question de savoir, dans les années 68, comment trouver une autre définition de ce que doit être la vraie femme. Et ils ont mis en place le test de corpuscule de Barre. Ils sont partis du principe très simple qu'une vraie femme était chromosomiquement XX et qu'un vrai homme était chromosomiquement XY.
Va poser des problèmes peut-être pour plus tard, pour les personnes transgenres, par exemple.
Par exemple, ouais. Et notamment, surtout pour les personnes intersexes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils prélevaient de la salive avec un coton-tige. Ensuite, ils procédaient à un caryotype pour la première fois aux Jeux Olympiques de Mexico en 68 et aux Jeux de Grenoble en 68, afin de s'assurer que toutes les femmes qui concouraient étaient bien des femmes chromosomiquement XX. Et le monde du sport a fait la découverte un peu tardive, hein, quand même, de ce qu'on appelle l'intersexuation. Et donc, je vais prendre le temps de définir ce qu'est l'intersexuation. Je me permets d'emprunter cette définition au collectif intersexe et allié, qui fait un travail remarquable. Et donc, l'intersexuation, ce sont des personnes intersexes qui sont nées avec des caractères sexuels, génitaux, gonadiques, donc testicules et ovaires, ou chromosomiques, qui ne correspondent pas aux définitions binaires type des corps masculins ou féminin. Et si vous voulez, ils disent que intersexe est un terme coupole qui englobe les expériences d'être né avec un corps ne correspondant pas à ce que la société attribue au masculin et au féminin. Et le monde du sport a découvert ça. Et donc, à travers ces tests, ils se sont aperçus que certaines femmes pouvaient être XXY, et qu'il y avait une infinité de possibilités de différenciation chromosomique.
Ils ont dû être très surpris, effectivement.
Effectivement, et ça a créé énormément de choses dont on parle très peu. On a pu dire à des athlètes, des très jeunes athlètes, qu'elles sortaient du champ des femmes et qu'elles n'étaient plus justement, je reprends ce terme très fort qui ressort quand on travaille sur ces questions, qu'elles n'étaient plus des vraies femmes parce qu'elles avaient, si vous voulez, et ça à nouveau je cite, un chromosome de trop. Et donc elles ont été exclues des compétitions, on les a empêchées de concourir.
Elles n'ont pas pu concourir tout court.
Non. Et du coup, il y a eu énormément de drames très peu connus dans l'histoire du sport chez ces athlètes qui ont soit arrêté la compétition, soit pour certaines fait des tentatives de suicide, puisque je vous laisse imaginer ce à quoi ça renvoie d'apprendre, après des années d'abnégation et de sport de haut niveau, qu'on vous fasse un test et qu'on ne comprenne pas l'inanité du test et qu'on vous dise non, vous n'êtes pas une vraie femme, vous n'êtes pas autorisée à concourir. Donc il y a eu énormément de drames dans l'histoire du sport, je passe vite. Ils ont d'abord, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils ont d'abord essayé de chercher le deuxième X pour définir ce qu'était une vraie femme. Ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas. Et au lieu de s'arrêter, en 90, ils ont décidé d'aller chercher le Y. Pour dire, voilà, une vraie femme, ce n'est pas un deuxième X, si vous voulez, mais ce qui n'est pas une femme, c'est quelqu'un qui a un Y.
D'accord.
Or, c'est absolument...
En creux, ils ont essayé.
Exactement. Et en fait, c'est ahurissant parce qu'ils savaient dès le départ que certaines femmes pouvaient être XXY ou XY. Et donc, ils ont arrêté les tests chromosomiques en 2000, pour la première fois au JO de Sydney. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ils se réservent le droit de faire passer des contrôles de genre, parce qu'ils appellent ça, à l'époque, dans les années 90-2000, des contrôles de genre, uniquement en cas de, je n'ai pas peur de le dire, de soupçons visuels. C'est-à-dire que c'est ce qui est arrivé à Caster Semenya. Si vous avez une femme qui sort des critères normatifs de la féminité, qui
trop
n'est
musclée,
pas mince, imberbe, gracieuse, fine, élégante, et j'ai envie de vous dire, dans ses gestes, mais aussi dans ses tenues, on a beaucoup reproché en 2009 à Caster Semenya de porter un bermuda, en gros un cycliste, au lieu d'une culotte, contrairement à ses autres concurrentes. Et ça a quand même été des arguments qui ont été repris pour justifier le fait qu'elle n'était pas une vraie femme. Donc c'est vraiment aller très très loin. À la limite, avant, j'ai envie de dire, c'était peut-être, je me risque cette comparaison, mais peut-être plus juste, parce que toutes les femmes étaient obligées de passer ces tests de féminité chromosomique. Or, aujourd'hui, c'est uniquement si une femme était jugée trop forte, trop douée, trop performante.
Aujourd'hui, on la cible.
Ou alors, j'ai l'impression que pour Caster Semenya, c'est plus le cas, qu'elle sort des critères normatifs d'une féminité que d'ailleurs je dis occidentale. On pourra y revenir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on teste ? Ce ne sont plus les chromosomes, mais le taux de testostérone.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours ces tests gynécologiques que vous avez évoqués un peu plus tôt ? Ça existe encore ?
Alors,
sous quelle forme ?
C'est une très bonne question. Normalement, non. C'est fini. D'ailleurs, ça a vraiment créé beaucoup de scandales dans les archives, dans tout ce que j'ai pu lire. Mais j'ai rencontré au cours de mes enquêtes, championne du monde de ski dans les années 90. Je fais exprès de rester évasive parce que elle m'a demandé de respecter l'anonymat, qui m'a dit dans les années 90, elle avait passé ses tests gynécologiques. Donc ce sont potentiellement des pratiques qui continuent à exister dans le milieu du sport pour savoir et essayer d'évaluer ce qu'est une vraie femme.
D'accord. Ok. Vous pensez que cette affaire, du coup, Caster Semenya, si elle aboutit, est-ce qu'elle a des chances de changer quelque chose ? Est-ce qu'elle peut marquer peut-être un précédent, en fait, dans le monde du sport et changer, en fait, ces règles de test de féminité ?
Alors, tout à fait. Moi, je voudrais dire que donc, ça fait très longtemps que je travaille sur ces questions et quand j'ai appris que Caster Semenya saisissait le tribunal arbitral du sport, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on la poursuit, qu'on l'accuse de ne pas être une vraie femme et qu'on l'empêche d'exceller et de concourir. Et du coup, c'est déjà pour moi un signal très fort qu'elle saisisse le tribunal arbitral du sport et qu'elle dise, comme en son temps, Maria José Patino, une athlète espagnole qui avait elle aussi battue pour être réhabilitée en tant que vraie femme, ou alors plus récemment Dutty Chand en 2015. C'est un signal très fort et je pense et j'espère que Caster Semenya va gagner comme Dutty Chand a gagné en 2015. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment voulez-vous que le tribunal arbitral du sport décide de réguler un avantage naturel plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que s'ils décident de réguler les taux hormonaux chez les femmes, alors il va falloir également, puisqu'on le sait qu'une grande taille peut être un avantage physique, en soit en hauteur ou en basket, réguler, faire des compétitions, des catégories de taille, ou alors je pourrais multiplier à l'infini ces avantages, ces soi-disant avantages physiques qui sont, à mon avis, constitutifs du sport de haut niveau et que l'on célèbre chez les hommes.
Et si Caster Semenya a malheureusement perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Elle compte bien continuer d'attaquer la décision de la FIA et de faire entendre sa voix en rappelant notamment, comme le font régulièrement ses nombreux soutiens, que bien des athlètes masculins bénéficient d'aides naturelles fournies par leur propre corps sans qu'on les force à prendre des traitements pour autant. C'est le cas par exemple du nageur Michael Phelps, qui produirait moins d'acide lactique que ses adversaires, ce qui lui permet de fournir de plus gros efforts et de récupérer plus vite. Mais lui, vous comprenez, c'est un prodige. Merci à Mélanie Wanga et à son invité Anaïs Bohuon pour cet épisode de Programme B qui avait été à l'époque réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée. Et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.